Alors, vous voyez présentement des images qui vous proviennent du Canada, qui ont été filmées certainement il y a au moins un an, parce qu'il y a toutes les saisons, là, comme ça, qui apparaissent. Alors, bienvenue à Tam Tam Canada, en direct de Montréal. 11h15, c'est l'heure à Montréal. Il y a 6 heures différentes et demie au Canada. 6 fuseaux horaires et demie, c'est incroyable. Et pour vous accueillir aujourd'hui, bien sûr, votre animateur préféré, Stéphane Parent. Il n'y en a qu'un animateur, alors c'est bien sûr le préféré. Et Mathieu Leiser, bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane.
Alors merci beaucoup de vous joindre à nous. On a eu le plaisir de vous présenter lorsque vous avez commencé à travailler avec nous. C'était, oh mon Dieu, ça fait quand même un bon bout de temps. Ça fait pas loin de 2 mois, si ce n'est pas plus.
Oui, exactement. Même plus.
Oui. Même plus. Vous avez quand même beaucoup de métiers. Vous avez travaillé pour... Vous ne pouvez pas tout dire parce que vous avez un bon curriculum vitae, malgré votre jeune âge. Vous avez travaillé où exactement?
J'ai travaillé pour la BBC World Service, j'ai travaillé pour l'agence France Presse, entre autres. Et après, j'ai travaillé pour d'autres médias comme Al Jazeera ou Perform Media, qui est plus du sport, et dans le domaine des UGC aussi.
Ah ben c'est fantastique. Écoutez, on est bien contents de vous avoir avec nous, d'autant plus qu'aujourd'hui, on n'est que deux à faire cette émission. Et il nous manque un vieux lion de la diffusion. Oui. On nommera pas cet homme.
Non.
Mais il s'agit quand même d'un homme, on va le dire.
Bon. On taira son nom.
Voilà. Alors, écoutez, rien ne change à l'émission, malgré l'absence d'un joueur, très important fut-il. Je vous présente tous la vidéo 5 images. Vous devinez tous ensemble quel est le sujet de notre émission aujourd'hui. Et Mathieu est le premier qui se trouve sur la sellette qui va crier haut et fort lorsqu'il pense avoir deviné le sujet de notre émission. Alors, pendant qu'on diffuse cette image numéro 2, le vieux lion de la diffusion s'approche du studio. Allez, Raymond, démarre-toi.
Le vieux lion de la diffusion.
Quel est le sujet de l'émission aujourd'hui? Image numéro 4. Je sais que vous savez lire toutes les langues.
Pétro-Caribe, ça, c'est on est en Haïti.
Vous êtes en Haïti. Alors, on parle de quoi aujourd'hui?
On parle des violences en Haïti, notamment.
Ah oui?
Et surtout, et on parle des... Peut-être, ouais, c'est ça. Bon, j'ai fait quelques papiers là-dessus cette semaine au sujet... Et la semaine dernière aussi. Salut, Mathieu.
Salut.
Alors, au sujet des recommandations d'interdiction de voyage du gouvernement canadien.
Donc, c'est vous. J'ai remarqué ça. C'est pour ça vous m'a inspiré dans le sujet cette semaine. Je dis, Raymond, il s'intéresse beaucoup à ça.
Bonjour tout le monde.
Puis, c'est pas le seul, d'ailleurs. Il y a Alice Chantal Chandem qui a aussi signé quelques papiers là-dessus. On va retrouver ça plus tard à l'émission. On va vous montrer à quoi ça ressemble, cette production des dernières semaines. Ça fait 5 semaines, en l'ensemble, qu'il y a des troubles présentement en Haïti. Ça a commencé avec des histoires de pénurie, de ci, de ça, surtout de pétrole. Mm-hmm. Et ça dégénère. Certains parlent peut-être d'une guerre civile. Là, il y a des craintes exprimées notamment par la diaspora haïtienne qui se trouve essentiellement à Montréal. Lorsqu'on parle de la diaspora au Canada, elle se trouve essentiellement à Montréal.
Chez les Haïtiens, en grande majorité. Oui.
Je suis bien content de vous avoir à l'émission, Raymond, parce que vous en savez beaucoup sur cette histoire, donc sur ces histoires, évidemment, d'Haïti, des dictateurs, de la contestation actuellement contre le président qui a été élu, je pense, il y a pas loin de 2 ans, le nouveau président. Et je voulais montrer les images de ce nouveau président hier. Ça nous vient de Voice of America, qui ressemble un peu à Radio-Canada International. C'est un peu... On parle de la souris et de l'éléphant, bien sûr.
Ça, on l'a fait branler, le pont. Hein?
Oui, ouais, c'est ça. On va regarder donc notre vidéo numéro 2, produit hier par Voice of America dans les rues de Port-au-Prince. On célébrait la fondation d'Haïti, 1848, je pense. Normalement, c'est un événement où tout le monde participe, grande foule populaire. Et là, il était entouré par des centaines de policiers, le président, parce qu'il y a des manifestants qui commençaient à cerner l'endroit où il était venu se recueillir sur la tombe du fondateur d'Haïti. Alors ça, c'est donc les images les plus fraîches. Plusieurs stations n'ont pas encore diffusé ce que je vous présente en ce moment, d'accord? Donc, je ne parle pas d'exclusivité, ça ne vient pas de nous, mais c'est quand même un bon geste de la part de VOA d'être présente sur le terrain. Ce qui m'amène à vous parler de la diaspora ici à Montréal, est-ce que vous avez des données que vous aimeriez partager avec nous?
Non, je n'ai pas de données.
D'accord. Bon.
C'est vous qui avez les données.
En principe, c'est moi. On va commencer donc par nos jeux de la grosse boule. Il y en a 3 à l'émission qui nous permettent donc de cerner davantage le sujet. Mm-hmm. Vous êtes prêts, Mathieu?
Très bien.
Hein? Je dois vous dire qu'aujourd'hui, ça va être difficile. On part avec 100% à l'examen, puis ensuite, ça dégringole. D'accord? Premier jeu, vous pourriez perdre 20% à l'examen. On est prêts?
Oui.
Vous savez, nos bulletins diront « peut mieux faire
». Oui. Ça, c'était dans les mois, c'était toujours comme ça. « Pourrait beaucoup mieux faire
».
Ouais. Alors, premier tour, on regarde la question. C'est au sujet de notre diaspora. On pense qu'elle est nouvellement arrivée, mais non. De 1760 à 1834, quel pourcentage des personnes esclavagées à Montréal mm-hmm. venaient de Saint-Domingue, qui était l'ancien nom donné à aujourd'hui à Haïti? Est-ce que c'était A, 3% des esclaves à Montréal étaient d'origine de Saint-Domingue, B, 13% des esclaves, C, 23% des esclaves, ou encore, j'adore le D, qui complique encore les résultats à l'examen, 33% des esclaves? Dites-moi. C'est pas une page très, très heureuse de l'histoire canadienne, ça.
Non, pas du tout.
Moi, j'aurais dit 23% des esclaves.
Et moi, 13.
Donc, j'ai un 13% et j'ai un 23%. Je vais regarder, moi, quelle est la bonne réponse. On va l'afficher.
On est dans le bar.
Je pense que... On va regarder ça ensemble. Ça s'en vient, ça s'en vient, le suspense. Demain, il y a un roulement de tambour. Voilà, c'est
3%.
Fait. 3%.
Ah bien.
Ce que j'ai trouvé très intéressant, comme ça, parce que je me dis 3%, ça fait du monde, c'était seulement 5 esclaves. Esclaves.
5 esclaves.
Seulement. Donc, vous savez, ce n'était pas un grand phénomène à Montréal, la présence d'esclaves noirs, mais ça a existé. Ça a commencé sous le régime britannique, ça s'est poursuivi sous le régime...
Français.
Français. Vous êtes originaire de France?
Pas plutôt l'inverse.
Hein?
Pas plutôt l'inverse. Ce serait... Parce que le régime
français... Ah oui, vous avez raison!
C'est plutôt français.
Une chance que vous êtes là, Raymond.
C'est pour ça que je ne répondais pas.
Oui, c'est pour ça. Vous êtes de connivence. C'est très bien. C'est fantastique. Donc, vous avez tous, nous les deux, perdu 20 boules sur les 100. Écoutez...
On se retrouve à zéro, Mathieu.
Oui. Faites attention à lui, hein, parce que lui, on l'a dit, c'est vieux lion.
Alors, oui.
Il va faire qu'une bouchée de tout le monde ici.
Bon. Yeah, right.
On va se tourner vers M. Franz Voltaire. Qui
Bonjour, le... Franz, comment allez-vous?
Bonjour, ça va très bien.
Heureux de vous retrouver.
Merci.
Alors, on va dire, c'est le directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne et caribéenne. Mm-hmm. M. Voltaire, fait combien d'années que vous habitez à Montréal, au Canada?
Depuis 1973, pour la première fois, je suis reparti en 75, je suis revenu en 80.
Donc, vous faites partie peut-être de cette deuxième vague d'immigration haïtienne des temps modernes. Il y en a une dans les années 60, une autre dans les années 70. Est-ce que vous diriez que ça correspond un peu à votre expérience personnelle? On pourrait dire que vous êtes de la deuxième génération?
D'une certaine façon, oui, parce qu'il y en a qui sont... On vient d'avoir des morts qui ont eu 99 ans, donc je fais juste le milieu, là.
C'est bien. Parlez-moi de la diaspora à Montréal. Ensuite, on verra comment elle réagit à ce qui se passe, parce qu'il y a beaucoup de familles encore. Il y a des amis qui sont à Haïti. Alors, décrivez-moi cette diaspora, l'importance pour Montréal.
Écoutez, on a une diaspora d'aujourd'hui à Montréal, toute origine confondue, et c'est pourquoi je parlerai plutôt des communautés haïtiennes que de la communauté haïtienne, parce qu'il y a des problèmes de revenus, des problèmes de classe, des problèmes... De temps de présence à Montréal. Et donc, on a une diaspora d'environ 150 000 personnes, toutes origines confondues. Et elle est présente dans tous les milieux, puisque dépendant de l'époque de la migration, la première vague remonte pour les premiers arrivés ici dans les années 1920. Parce qu'on a retrouvé que les premières associations haïtiennes datent de 1930, c'est l'association Amitié Haïti-Québec, Haïti-Canada. Et après, il y a eu des vagues successives d'exilés et plus tard, des vagues d'immigrants économiques ou d'immigrants professionnels plus récemment. Et la dernière vague, c'est celle qui est venue par le chemin Oxfam. Ce sont les derniers qui sont venus des États-Unis.
Évidemment, on vient d'Haïti souvent, mais on repart très souvent. On repart visiter les amis, la famille. Vous allez vous rendre dans moins de 4 heures. Vous prenez un vol Montréal-Haïti, un vol direct.
Je vais pas à Haïti, là.
Non?
Non, je vais à un colloque à Cuba.
Ah bon, écoutez. Moi, je confonds.
C'est
tellement proche.
Voilà, on travaille aussi sur Haïti, la République dominicaine, Cuba et la Jamaïque. Donc, on travaille comme centre aussi sur les Antilles... Donc là, je m'en vais pour un colloque de l'UNESCO à La Havane.
Alors, vous vous préoccupez de cette question, vous n'êtes pas le seul. Que pense la communauté ou les communautés présentement de ce qui se passe? Ce n'est pas la première fois qu'il y a des troubles à Haïti. Qu'est-ce qui ressort cette fois dans les pensées, dans les cœurs des citoyens qui nous côtoient ici à Montréal ou au Canada?
Alors, on est en face d'une crise qui a débuté l'année dernière. Il faut bien comprendre que cette crise débute, c'est une crise systémique, crise économique d'abord, parce que il y a eu des détournements massifs. On parle du projet de Pétro-Caribé. Et en fait, c'est intéressant, beaucoup de gens qui ont levé la question du Pétro-Caribé, c'était des jeunes, et certains d'entre eux étaient ou soit nés à Montréal ou avaient vécu à Montréal assez longtemps. Ils étaient retournés en Haïti, et ce sont les premiers qui ont commencé à contester ces détournements massifs. On parle de plus de 3 milliards de dollars qui ont été détournés. Et cela, ce sont des prêts, c'est-à-dire qu'Haïti devra les rembourser. On a parlé aussi de la crise qui naît du tremblement de terre. Et là, on a un problème majeur, c'est-à-dire ces fonds promis pour la reconstruction d'Haïti qui, en fait, ne sont jamais allés vraiment en Haïti. Et on parle de milliards de dollars. Ça a été les cas gérés par la Fondation Clinton. Donc, il y a un certain nombre de mécontentements basés aussi sur le fait que si ce président a été élu, il a été élu avec moins de 500 000 voix. Et en plus, il a été, suivant beaucoup d'observateurs internationaux, il a été aussi imposé à Haïti. Et là, on a un problème, c'est-à-dire voilà un président qui, s'il est reconnu par l'international, n'avait pas de légitimité. Ce président a fait des promesses inconsidérées avec sa caravane qui a été un gouffre dans l'utilisation de fonds publics. Et je crois que pour la première fois, il y a une conscience citoyenne de que les détournements de fonds, la corruption, affectent directement le bien-être des gens, puisque ça remet en question le fonctionnement du système scolaire, du système de santé. Et donc, il y a une contestation qui est née, et ce président n'a jamais, je veux dire, voulu rendre des comptes. Si l'on ajoute à tout cela le fait que le président s'est défait de son premier ministre, un premier ministre qui était né de la première crise, donc d'un compromis il y a quelques mois, et qu'on se retrouve sans gouvernement. Je dirais sans gouvernement légal. Il y a un gouvernement de fait, mais on n'a pas de gouvernement légal reconnu par le Parlement. On a aussi un effondrement du Parlement. Les gens accusaient les députés, sénateurs d'appropriation indue de fonds. Donc, on est en face d'une crise généralisée. C'est tout le pays qui s'est mobilisé. Et cette crise est peut-être la plus grave depuis la chute de Jean-Claude Duvalier.
Vous... François Voltaire, vous allez très très loin en disant que c'est la plus grave ou serait la plus grave depuis la chute de Bébé Doc, de Jean-Claude Duvalier. L'impression qu'on en a de l'extérieur aussi, c'est que c'est un ras-le-bol généralisé qui s'installe, mais avec toujours une classe qui s'en met plein les poches et qui trouvera sans doute le moyen de continuer à le refaire.
Ça, on ne le sait pas, parce que vraiment... Moi, c'est la première fois que j'observe qu'il ne s'agit pas simplement d'une contestation qui généralement opère à la capitale ou dans une deuxième ville comme le Cap ou comme les Gonaïves.
Les Gonaïves, oui. La
contestation est générale dans tout le pays.
Ah bon.
Et on voit les revendications, c'est-à-dire que les gens soient jugés, qu'on fasse une refondation de l'État haïtien. Et en même temps, les Nations Unies, qui depuis 10 ans, il y a une contestation aussi du rôle des Nations Unies et de la présence internationale. Parce qu'on se dit, c'est cette présence internationale qui a imposé en partie ses dirigeants, et donc ils n'ont plus de marge de crédit. Donc on est en face de ce qui menace peut-être un éclatement, parce qu'on a vu que ce président est complètement isolé, même des milieux d'affaires qui étaient proches se sont désolidarisés du président, je pense, à des hommes d'affaires qui ont été très liés au régime, comme un des hommes d'affaires les plus importants d'Haïti, Réginald Boulos, ou encore comme certains autres, le Forum économique. Donc, il y a un ras-le-bol. Les vaudouisants, les catholiques, les protestants, les universités, les écrivains, c'est-à-dire ce président est contesté de partout. Il est encore le verrou du système. Bon, sur ce, seul l'appui et la reconnaissance par le corps groupe, qui est une sorte de syndicat d'ambassadeurs de la France, du Canada, des États-Unis, du Brésil, reconnaît encore ce président. Mais ce président est contesté partout, il ne gouverne rien. Il peut, comme disent les gens, à peine il peut arriver dans son palais. Donc, c'est la première fois que moi j'observe une crise de cette dimension.
Et est-ce que la population a d'autres recours que les manifestations qu'elles font actuellement? Est-ce qu'il y a d'autres recours possibles pour changer la situation?
je vois très difficilement parce que les institutions n'ont pas été à la hauteur et elles-mêmes, elles sont contestées. Aujourd'hui, les gens veulent une refonte possiblement du pacte qui a été de 87, qui était la constitution de 87. Les gens veulent un changement de régime parce qu'ils veulent mettre fin à ce genre de régime où la corruption prédomine et où les gens s'en mettent plein les poches au détriment de la grande majorité de la population.
Et est-ce que c'est possible réalistiquement d'arriver à cela, de changer la constitution, de changer ce système ?
Moi, malheureusement, je ne lis pas dans le marc de café. je n'ai pas de solution à proposer. Comme observateur, je me rends compte qu'on est en face d'une situation quasi insurrectionnelle. Certes, la police peut continuer à maintenir l'ordre, mais on a eu, depuis un an, plus d'une centaine de morts, 135 plus précisément. On a des blessés. Et on a aujourd'hui un système où rien ne fonctionne. Les écoles sont fermées, les universités sont fermées, les hôpitaux ne fonctionnent pas. Si vous allez, les supermarchés commencent à fermer, il va y avoir une crise majeure. Peut-être ça peut durer encore 2 semaines, mais je ne vois pas comment ça pourrait durer encore plus que deux, trois mois, grand maximum.
Mais c'est la piste à suivre, c'est toujours la piste de l'argent. Et ça a été ça depuis Duvalier père. Où va l'argent? Dans les poches de qui? Vient le pouvoir, on peut acheter des gens qui vont faire des contre-manifs, qui vont, par exemple, assassiner des journalistes. On en a vu quelques-uns, deux, tout récemment.
Tout à fait.
Mm-hmm. Et vous dites 2 semaines, mais tant et aussi longtemps qu'on a la poigne sur ces milliards qui sont arrivés, on peut arriver, quelque part, à tenir un peuple. Bon, manifester, c'est bien beau, mais soit. Mais il y a un point de bascule vers lequel on s'en va que vous voyez venir d'ici 15 jours.
Écoutez, moi, je dis, je ne vois pas comment ça va tenir. Je regarde les nouvelles du côté du voisin, la République dominicaine, qui a mobilisé l'armée, fermé la frontière, et même où ils font des plans de contingence au cas où il y aurait une masse de migrants à traverser la frontière. On est dans une crise où, dans ce pays, s'il n'y a pas un changement qui donne aux gens la possibilité que les choses peuvent commencer à s'améliorer, je crois qu'on s'en va vers une crise majeure, qu'on aura des boat people, qu'on aura des tentatives de migrants, mais aussi, et on peut passer à des situations d'affrontement armé. Parce que, d'abord, le pouvoir a toléré pendant très longtemps des bandes armées, il suffit qu'elles basculent. Donc moi, notre inquiétude, c'est que plus ça dure, cette crise, et le président qui est le verrou de cette crise tarde à trouver une solution institutionnelle, à négocier sa sortie, plus on va faire une radicalisation. Regardez, il ne faut pas non plus ce qui s'est passé ailleurs lors des printemps arabes. C'est-à-dire, la police, c'est 15 000 personnes. C'est très difficilement qu'elle pourrait prendre le pouvoir. Donc, elle sera vite dépassée.
Et l'armée ?
Il n'y a plus d'armée en Haïti. C'est-à-dire, il y a une reconstitution d'une armée.
Oui, mais c'est ce que je veux dire.
100 personnes, mais c'est pas. On n'a pas d'armée véritable. C'est une joke, comme on dit.
Monsieur Walter, il y a évidemment l'expression complicité des pays riches. J'ai vu quelques pancartes de manifestants qui disent « Le Canada, les États-Unis, sortez d'Haïti, on ne veut plus vous voir. Quelle pourrait être la contribution de certains politiciens, de certaines personnes au Canada pour essayer de trouver une solution pour de faire diminuer la tension? Est-ce qu'on a encore un rôle, même s'il n'était que distant?
Bon, moi, je crois que ce sont les États-Unis de Trump qui donnent le ton. Bon, maintenant, des autres pays, parce que ce n'est pas une zone peut-être stratégique pour eux, la France ou le Canada jouent un rôle secondaire comme le Brésil. Mais les États-Unis peuvent aujourd'hui compter sur l'appui du Brésil et certainement, le Canada reste encore, même si le Canada prenait des positions, ce serait une attitude plutôt morale ou d'essayer de convaincre les Américains qu'il faut trouver une solution institutionnelle à cette crise si l'on ne veut pas être débordé d'être dans une perspective de confrontation armée qui, d'une façon ou d'une autre, pourrait se matérialiser si la crise continuait. Parce que vous avez une population qui n'a plus rien à perdre. Vous avez, écoutez, quand vous avez une ville de... J'ai vu une manifestation dimanche à l'appel des artistes. C'était une manifestation très pacifique. Mais c'était 1 million de personnes, c'est-à-dire un tiers de la ville, à défiler dans la ville. Donc il faut quand même et trouver une solution politique et aider peut-être ce président à s'en aller du pays ou qu'il se retire de la présidence.
Monsieur Voltaire, merci beaucoup de nous avoir communiqué ces plus récentes informations puis votre analyse qui nous mène qui nous fait voir les choses qui pourraient se produire d'ici quelques semaines ou plus tard. Là. C'est important, je pense, à ce moment-ci, de commencer à parler avant qu'il y ait vraiment une crise en tout cas, ce que vous nous avez raconté est tout à fait effroyable en perspective. Merci beaucoup, M. Voltaire, d'être venu aujourd'hui à l'émission.
Merci beaucoup, M. Voltaire.
Merci en pile, Franz. Pas la gueule.
Franz Voltaire, directeur du Centre international de documentation et d'information haïtienne et caribéenne. Je ne m'attendais pas à d'aussi mauvaises nouvelles. J'avais lu quelques articles, tout ça. Bon, on voit des vidéos. On sait que ça s'est déjà...
C'est très mauvais. Ouais. C'est très, 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 très troublant.
On a vu des images qui nous rappellent d'autres images, mais celles-ci là, décrivent un autre scénario, potentiellement. Alors, écoutez, à l'émission aujourd'hui, j'aimerais quand même reprendre les cordons vers le sourire. Au moins, c'est vendredi, vous le savez. Hein, c'est toujours une occasion ici en petite famille de se réunir, de se dire bonjour. Parce qu'on est toujours très occupé. Vous savez qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines minutes?
Oui. Bon, le sphérologue se fait aller.
Oui, sphérologue, on y va.
C'est parti.
Deuxième tour de la grosse boule. Combien de boules à perdre?
30.
30.
Il a l'habitude.
Je vois.
Le vieux, lui.
Oui. Le vieux, là. Écoutez,
celle-là, je ne l'attendais pas.
Mais, cher Lyon, vous avez peut-être la réponse à ça. Peut-être que vous avez souvenir de ça.
Voyons voir.
Puis, Mathieu, vous allez encore faire intervenir ici vos connaissances générales. Votre intuition de journaliste, elle est très développée.
Non, lui, c'est un vrai journaliste.
Vous ne partez pas avec un handicap, parce que l'autre connaît toute l'histoire, d'accord?
Non.
Bon, voici.
C'est quoi son nom, lui?
Deuxième question.
Ah, bon,
quand Air Canada a-t-elle inauguré, il y a deux fois le, mais je pense que c'est parce que vous appuyez sur le premier vol direct entre Montréal et Port-au-Prince. Est-ce que c'était le 18 juillet 1998? Est-ce que c'était B, le 23 septembre 1987? Ou est-ce que c'était C, le 29 octobre 1978?
Tu m'as dit 78, moi.
78 pour monsieur le...
Moins 30.
Monsieur l'historien.
Moi, j'irais sur du 1987.
1987. Alors, je peux vous dire qu'il y en a un des deux qui conserve ses boules.
Ah.
Je ne sais pas. On va regarder ensemble qui conserve ses boules. Et vous criez dès que vous pensez que vous avez gardé...
Non!
Raymond conserve ses boules. C'est bien. C'est très bien. Alors, voilà.
Moi, je n'ai pas dit 98. Hein. Je reste quand même sur un 10 ans.
Oui. Écoutez, c'est quand même une date importante parce que c'est parce qu'il y a eu ce vol-là qui permettait de venir directement à Montréal qu'on a vu une augmentation importante du nombre de personnes qui venaient au Canada, qui venaient en visite, qui voulaient venir vivre au Canada. On parle de 100 personnes par jour à un moment donné à partir de 1979.
Parce que les vols se faisaient toujours soit Miami, soit New York.
Ça compliquait les choses. Mm-hmm. Alors, voilà ce qui se passe. Ça, c'est donc il y a 30 ans, 40 ans, 41 ans. Mm-hmm. Mon Dieu, ça passe vite le temps. Et puis, Mathieu n'a pas 40 ans, alors lui, ça l'importe peu. Voilà. Ah oui, sur notre site web, je vais vous faire honneur. On a toute une suite d'articles pour ceux qui veulent en apprendre plus sur la situation à Haïti, signé par nos collègues, Mathieu. Mm-hmm. Il y a Raymond Desmarteaux qui a signé la plupart d'entre eux. On va afficher ça. Ça s'appelle la vidéo numéro...
Oupala, voilà. La voilà.
28. Voilà. Alors, Haïti, un autre journaliste abattu, c'est de vous, ça, cette semaine? Oui. Recommandation d'éviter de se rendre en Haïti. Le Canada recommande d'éviter de se rendre en Haïti. On veut être sûr que les Canadiens le savent. Donc, on a fait deux articles à ce sujet-là. Festival d'Haïti en folie. Mm-hmm. C'était le 13e cette année. Vous avez signé un article intéressant avec cet homme-là, Walter Innocent.
Walter Innocent est un auteur, est un penseur, et il a son site web très, 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 très fascinant.
Qu'est-ce qu'il dit au juste? Je pense donc que...
J'écris.
Ah, c'est bien ça. C'est bien, il y a des gens qui écrivent sans penser ou sans réfléchir.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il met le doigt... Excusez-moi, Mathieu. Il met le doigt sur un problème de représentativité de la... de notre société à l'image télévisuelle. Notre télé est très monochrome, très blanche, ainsi de suite.
Ah, OK, d'accord.
Alors que, bon, notre société est multiculturelle. Oui. Elle est arabophone, elle est asiatique, elle est haïtienne, elle est africaine, elle est bien sûr autochtone, mais...
On la voit pas. C'est vrai qu'il a raison. Vous promenez dans la rue... je ne sais pas si c'est sur la rue ou dans la rue.
Dans la rue.
Faire attention, parce que... Alors, on se promène dans la rue, puis on voit que Montréal, ça vient de partout.
Oui.
Et puis, on ne voit pas nécessairement ça à la télévision ou dans les télévisions. Dans les télévisions ou à la télévision, Raymond?
À la télévision. C'est intéressant de mettre en avant aussi que l'article qui recommande aux Canadiens de ne pas se rendre en Haïti a été un des plus populaires dans la section française.
C'est fou, hein?
Du coup, ça montre vraiment que les gens s'intéressent à cette situation et qu'on fait bien de reporter dessus et de continuer à reporter dessus. Parce que c'est, comme on l'a vu, c'est très grave. Et on s'attend dans les prochaines semaines à voir comment la situation évolue.
Comme le disait M. Voltaire, oui, c'est ça.
Je ne sais pas qui a parlé de ça. C'était à la fin septembre. C'est à RCI, on en a parlé. Je ne sais pas si on a fait un article là-dessus. Je sais que CBC en a parlé, Radio-Canada en a parlé. Je vais vous montrer l'image. C'est notre image que l'on tire dans notre... attendez voir que je trouve. Numéro 8, vidéo numéro 8. Je fais une petite vidéo avec l'image. C'est niaiseux, mais j'ai fait ça. Une vidéo avec une image, voilà. Et puis, ça...
Je ne sais pas si on a fait un papier là-dessus. Moi, je sais que je n'en ai pas fait. Mais c'est ce député qui tire en l'air parce qu'il dit « Ma vie est en danger ». Il est entré au Parlement, armé.
Et ça représente bien la situation actuelle. Ouais. L'image est très puissante en elle-même.
Fin septembre, c'est un sénateur.
Un sénateur, oui.
Puis il a tiré, puis il a blessé, je pense, un journaliste étranger.
Ah oui.
Du coup... Alors, c'est bête, hein? Mais en tout cas, c'est pour ça que la nouvelle a probablement fait le tour du monde. On a vu. Moi, j'aurais dit que c'est l'image du mois de septembre. Mais j'exagère toujours, vous le savez. Alors, mais là, je vais vous proposer dans quelques instants l'image de la semaine. C'est pas pour tout de suite. Je réserve le gâteau pour la cerise. Alors, on y va avec notre troisième tour. On y va avec le troisième tour.
Si on peut après le pinceau, on enlève l'échelle.
Et que c'est bien compris. On y va avec ta troisième question. On perd combien de boules pour ce jeu?
50.
Et puis Raymond, lui, il a conservé toutes ses boules, Mathieu.
Non, il
en
a perdu 20.
Il en a perdu 20. C'est lui qui a perdu.
Non, moi j'en ai perdu 20. Il en a perdu 20. Il en a perdu 50, pardon.
Mais j'ai encore une chance.
Il en a juste perdu 30. Parce que le deuxième jeu, on en perd 30.
Non, mais le premier jeu, on a perdu tous les deux.
Ah oui! Vous n'auriez pas dû me dire ça. OK, très bien. Troisième jeu.
Allez.
On y va. 50 boules à perdre. Complétez correctement cette tirade célèbre de Donald Trump. Je pourrais me tenir au milieu et tirer sur quelqu'un sans perdre d'électeurs. Je pourrais me tenir au milieu de quoi? Est-ce que c'est A, Broadway Avenue? Est-ce que c'est B, Fifth Avenue? Est-ce que c'est C, Madison Avenue? Ou est-ce que c'est D, Park Avenue?
Aujourd'hui, Fifth Avenue.
Fifth Avenue.
Favaro.
Une des plus grandes de New York.
Voilà.
C'est la plus grande, c'est la plus connue apparemment sur les guides de voyage. C'est fou ce qu'on a.
C'est là où il a une de ses tours d'ailleurs, est pas très loin.
C'est vrai.
Elle est un bloc de la Fifth Avenue.
Puis je pense qu'il a raison, il pourrait tirer sur quelqu'un, puis il n'y aurait peut-être pas de conséquences. Hein. On ne sait pas, mais je pense qu'il ne devrait pas tester l'affaire. D'après moi, si j'étais lui, j'éviterais de tester l'affaire. On regarde la bonne réponse, c'est ça. Fifth Avenue, vous ont conservé toutes vos bons et vos boules cette semaine. Fantastique. On y va pour l'image de la semaine.
Allons-y.
C'était quoi déjà le gâteau après la cerise?
Oui,
très bien. Alors, je réponds seulement par oui ou par non.
Est-ce animalier?
Attendez que je vois. On pourrait parler d'une bête.
Est-ce international?
C'est une nouvelle du Canada qui certainement fait le tour international, hein, j'en suis sûr. Oui.
Est-ce que c'est un rapport avec les élections?
Oh oui, gros rapport avec les élections.
Est-ce que c'est un candidat en particulier?
C'est un candidat en particulier, on ne peut rien vous cacher. Hein?
Est-ce que ça... Bon, on va aller sur les... Justin Trudeau?
Non.
Maxime Bernier?
Non.
Non plus.
Andrew Scheer?
Andrew Scheer! Tiens donc.
Andrew Scheer?
Vous avez deviné. Dans quel contexte, Andrew Scheer? Ah là, c'est plus difficile. C'est au sujet de quelque chose qu'il aurait dit cette semaine.
Ben, il a parlé notamment de la possibilité, lui aussi, d'un gouvernement minoritaire, disant que, normalement, si vous avez le plus grand nombre de députés, c'est vous qui gagnez, vous qui dirigez le pays.
Puis, c'est vrai, ça?
Non.
Non.
Ah bon?
Parce que c'est le choix du gouverneur général de
renvoyer le premier ministre. Et au départ, le premier ministre sortant a un avantage. Il y a prépondérance proposée, par exemple, une alliance, une coalition avec un autre parti pour avoir un nombre supérieur de partis.
Mon Dieu.
De députés.
Pardon. Ça, c'est gros, hein, comme... Je sais pas s'il comprend pas la Constitution canadienne, mais c'est très gros comme affirmation. Et comme réinventer la réalité, là, c'est quelque chose qui est dénoncé ces jours-ci. Mais on va regarder dans quel contexte il a fait ça, ces déclarations concernant le fait qu'il n'avait pas besoin de se préoccuper du fait qu'il n'avait pas de majorité pour former le prochain gouvernement.
Et il n'y a pas de lien avec Fifth Avenue, hein?
Non, okay, non, il n'y en a jamais. Moi, vous savez, moi, je fais jamais de lien. La cerise puis les pommes, c'est tout à fait différent.
Alors, CTV,
c'est
ouais.
Lors d'une entrevue avec CTV.
Mercredi. Puis il a rajouté du crémage sur le gâteau. C'était jeudi. Pour ceux qui s'intéressent, on a signé un article ce matin, je pense.
Oui, qui est déjà sur les réseaux sociaux.
C'est vrai.
Si vous voulez aller le voir sur notre page Facebook. Radio-Canada International.
Vous vous souvenez du titre? Seulement le mot « chier » doit être là-dedans. Hein? Écoutez, c'est à voir donc sur RCI. Mathieu, officiellement, vos responsabilités, vous en avez beaucoup. Hein? Vous avez beaucoup de responsabilités. Une d'entre elles, c'est de nous aider ici à la préparation de cette émission. Et aussi, c'est d'être sur les réseaux sociaux. Parce que c'est un monde que vous connaissez bien. Et puis aussi, il y a toute une refonte des balados à Radio-Canada International qui s'organise tranquillement. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut annoncer sans se faire chicaner par le patron? Est-ce qu'il y a des Non, ben, parce qu'il faut faire attention, il écoute tout le temps.
Ah, je ne sais pas exactement ce qu'on peut annoncer. Je peux déjà annoncer qu'on a lancé un nouveau projet de Facebook Stories, ou les nouvelles Facebook. Du coup, tous les jours, vous pouvez accéder à cela. Ça reste pendant 24 heures et c'est... un visuel des trois interviews de nos journalistes en français et en anglais. Et du coup, c'est très intéressant, c'est très interactif. Vous les avez directement en haut de votre page Facebook quand vous aimez la page Radio-Canada International. Et vous avez juste à balayer vers le haut et vous accédez à l'article.
Très bien. Écoutez, je vais vous donner les devoirs de la semaine prochaine. Mm-hmm. Non, c'est gentil, faites ce que vous voulez.
Oui, parce que la description de tâche de Matthew, la dernière phrase est très importante. Hein?
C'est quoi?
Au besoin, il accomplit toute autre tâche que
C'est bien.
Mais On me nomme le Joker.
Faites-nous une petite vidéo sur la semaine prochaine de 2-3 éditions de ça, parce que je pense que c'est super le fun de retrouver ça sur le Facebook, de montrer à quoi ça ressemble. Pour ceux qui voudraient acheter le produit, c'est gratuit en passant. Vous pourriez le faire.
Si vous voulez le consulter, j'en ferai une.
Ouais.
Et on va aussi promouvoir la cyberlettre, qui est très importante, qui sort tous les jours.
Okay.
Et continuer à promouvoir aussi cette fameuse histoire de podcast qui reste...
Oui.
Un secret, mais vous en saurez bientôt.
Davantage à l'heure prochaine. Hein? C'est super le fun. Hein? On va avoir du plaisir à parler de ces nouveautés qui se préparent dans les coulisses et des fois qui coulent comme ça à l'antenne.
Mm-hmm.
Voilà, merci beaucoup, Mathieu.
Merci à toi, Stéphane.
Mathieu Leiser et puis Raymond Desmarteaux, merci
beaucoup.
Salut
bien, mon cher.
Et puis à la semaine prochaine, tout le monde.
Au revoir.
Que la force soit avec vous.